96%, c'est un chiffre qui pose le décor d'emblée. Faisons une petite expérience mentale pour ceux qui nous écoutent.
Ouais, une expérience qu'on vit tous les jours, en fait.
Exactement. Quelqu'un prend son téléphone aujourd'hui et tape le nom d'un produit. Disons un ordinateur portable ou une paire de baskets. Eh bien, dans 96% des cas, l'écran ne va plus afficher une liste classique de liens bleus avec des petits paragraphes de texte. L'écran va se transformer en véritable vitrine.
Ouais, avec des photos détourées, des prix en gras, des étoiles d'avis clients. C'est partout maintenant.
Ok, décortiquons ça. Le référencement classique, cette quête absolue de la première position textuelle, ça semble être devenu littéralement aveugle à l'endroit exact où la transaction visuelle se passe.
Et c'est vraiment le point de départ de l'article fascinant de Sami Bey. C'est un texte super percutant publié sur le site de Vanguard Edge Consulting. Et c'est ce qui va structurer notre exploration d'aujourd'hui.
Parce que ce qui est crucial d'emblée, c'est de comprendre la mécanique de cet aveuglement. L'auteur met le doigt sur une fracture systémique, en fait, hein, dans les outils d'analyse.
Complètement. Prenons la Search Console. C'est le tableau de bord standard de toute stratégie web.
Ouais, l'outil de base, quoi.
Cet outil a été conçu pour mesurer l'interaction avec du texte et des liens classiques. Il est incapable de lire ou de quantifier ce qui se passe à l'intérieur de ces fameuses grilles visuelles.
C'est fou.
Ouais, c'est comme essayer de mesurer la température de l'eau avec un anémomètre. On regarde les données de vent alors que tout le courant, toute la tension de l'acheteur, en fait, ça circule sous la surface, dans une infrastructure totalement différente.
C'est une super image. Ce n'est donc pas une simple mise à jour cosmétique, en fait. On ne parle pas juste de rajouter une petite photo à côté d'un texte.
Ah non, pas du tout.
Mais attends, comment on a pu arriver à une telle omniprésence sans que toute l'industrie s'en rende compte immédiatement? Parce que l'invasion décrite par Vanguard Edge, elle semble avoir été vraiment fulgurante.
Le mot est faible. L'article s'appuie sur les données très précises de Kevin Indig, des données issues du Growth Memo. Et ce qui est mesuré, c'est une accélération brutale.
C'est-à-dire ?
On parle d'une hausse de 82% du nombre de grilles produits, et ça en seulement 9 mois.
82%?
Ouais. Concrètement, entre mai 2025 et février 2026, sur un très large échantillon de requêtes e-commerce, on est passé de 1825 à 3321 emplacements de ces grilles.
3300. Enfin, c'est une prolifération massive, quoi.
Exactement. Et si on cherche à comprendre l'ampleur du phénomène, tous les chiffres convergent. L'article mentionne que Brody Clark, qui suit l'évolution des interfaces au millimètre, il arrive exactement au même constat.
D'accord.
Et AudienceKey, qui est une grosse plateforme, valide aussi cette explosion.
Mais là où la réalité devient vraiment écrasante pour la visibilité classique, c'est quand on réduit la taille de l'écran. Quand on passe sur un téléphone portable, là, ça change tout.
L'auteur, 71% des résultats sur mobile, intègrent désormais ces grilles, ce qu'on appelle les popular products.
71%?
Oui. Il faut visualiser physiquement l'espace d'un écran de smartphone, tu vois. Il n'y a de la place que pour deux ou trois éléments avant de devoir scroller.
C'est clair.
Donc si une grille visuelle prend l'essentiel de cet espace, la première position classique, textuelle, elle est automatiquement repoussée sous la ligne de flottaison. La grille n'est plus une exception, c'est devenu le standard architectural de la page.
Et le pire, c'est que ça ne s'arrête pas à une seule vitrine. Moi, en lisant l'étude de Grosse Mémo, j'ai vu une véritable stratification. 32% des pages affichent deux grilles différentes.
Ouais, et 22% en empilent trois. C'est dingue. Cet empilement, elle est implacable. Vanguard Edge cite les mesures d'Advanced Web Ranking sur le CTR, le taux de clic.
Oui, le pourcentage de gens qui cliquent vraiment.
Exactement. Et l'étude montre que ce taux de clic organique, classique, il est divisé par deux dès l'instant où une grille produit apparaît sur la page.
Divisé par deux? C'est violent. Mais alors, si je comprends bien, imaginons un site qui a passé des années à optimiser son architecture. Un site qui a rédigé des descriptions parfaites, qui a gagné cette fameuse position numéro 1. En gros, il a bâti la plus belle boutique sur l'avenue principale.
Ouais, je vois.
Et soudain, tu as un immense marché éphémère, ultra coloré, qui s'installe sur le trottoir juste devant sa porte. Les passants s'arrêtent au marché, regardent les produits et n'entrent même plus dans la boutique physique.
C'est une bonne analogie.
Mais du coup, est-ce que cela signifie que la position numéro 1 en SEO classique ne sert plus à rien?
Inutile, non. Le trafic existe encore. Mais il est, disons, sévèrement amputé. Et c'est là qu'il faut faire preuve de discernement analytique. L'auteur montre bien que la chute de performance du site, dans ce scénario, ça ne vient pas d'une erreur.
Le site n'a rien fait de mal, en fait.
Voilà. Aucune pénalité technique. Le contenu est toujours jugé pertinent. Son rang classique n'a pas bougé d'un millimètre. C'est simplement l'écosystème autour de lui qui a muté. Tu vois, l'interface capte l'œil de l'utilisateur avec des images et des prix immédiats, ce qui court-circuite complètement le processus de lecture d'un lien bleu.
C'est une vraie fracture. Et ça nous amène au cœur du problème soulevé par l'article, cette déconnexion totale entre ces deux mondes.
Ouais.
Parce qu'on pourrait naïvement penser que les géants historiques du référencement monopolisent naturellement ces nouvelles grilles visuelles. Mais les données de Vanguard Edge démontrent exactement l'inverse.
Absolument l'inverse, oui.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Prenons l'analyse de GrowthMemo sur le marché du reconditionné informatique.
C'est un cas d'étude remarquable. Prenons l'exemple de Discount Computer Depot.
Ouais.
Sur le terrain du référencement classique, donc textuel, c'est un vrai rouleau compresseur. Ils possèdent 87% des positions dans le top 3 organique de leur secteur.
87%.
En volume, l'étude parle de 4 600 000 positions captées. C'est un quasi-monopole.
4 600 000. La domination est totale. Mais alors, qu'est-ce qui se passe pour eux dans les grilles produits?
Bah, le vide presque absolu.
Sérieusement?
Ouais. Malgré ce poids écrasant dans l'algorithme classique, ils n'occupent que 2,4% des emplacements dans les grilles visuelles étudiées.
Attends, 2,4%?
Ça fait à peine 80 apparitions sur plus de 3300 emplacements. C'est l'illustration parfaite qu'une réputation textuelle ne donne vraiment aucun passe-droit dans la sphère visuelle.
C'est vertigineux. Donc le titan du texte est un fantôme dans les vitrines.
Exactement.
Mais l'auteur montre aussi la situation inverse, non? Avec le cas de Back Market.
Ouais, toujours selon l'étude, Back Market est presque marginal en référencement textuel pur. Ils n'ont que 1,7% des positions organiques du top 3.
C'est minuscule.
Mais quand on bascule sur les grilles produits, c'est la razzia. Ils monopolisent 59% de l'espace visuel.
59%?
Et leur progression est fascinante. Ils ont multiplié leur présence par 2,6 en seulement 9 mois, en passant de 745 à 1960 emplacements.
J'ai besoin qu'on s'arrête là-dessus une seconde. Comment est-ce techniquement possible? Enfin, comment un algorithme censé classer la pertinence de l'information peut-il récompenser un acteur dans un format et l'ignorer totalement dans l'autre?
Bah, tout simplement parce qu'il ne s'agit pas du même algorithme. Et c'est le cœur de la thèse de Vanguard Edge. On est face à deux moteurs de recherche très différents qui cohabitent sur la même page. D'un côté, le moteur classique qui lit du texte, analyse des liens et qui demande des semaines pour évaluer la réputation d'une page.
D'accord.
Et de l'autre, on a le shopping graph qui alimente ces fameuses grilles. Lui, il ne lit pas d'articles de blog. Il se moque totalement de la réputation historique.
Il regarde quoi alors?
Il ingère des flux de données pures, des codes-barres, des prix, des stocks en temps réel.
Ce qui explique ce qui est arrivé à Amazon.
Ah oui, l'exemple d'Amazon est incroyable.
C'est l'exemple le plus choquant rapporté par Audiensky dans l'article. On parle quand même de l'autorité suprême du web. Eh bien, l'étude montre qu'Amazon a subi une perte instantanée de 100% de ses apparitions organiques dans ses grilles.
100%, oui.
En une fraction de seconde, 428 000 cartes produits se sont évaporées juste parce qu'Amazon a décidé de se retirer du programme Google Shopping. Mais même en sachant qu'il gère deux moteurs différents, comment un mastodonte pareil peut disparaître d'un coup?
En fait, il faut utiliser une métaphore pour bien saisir la différence de mécanique. Le référencement classique, c'est un peu comme publier un livre de référence dans une grande bibliothèque.
Ok.
Google, c'est le bibliothécaire qui vient lire, qui vérifie les citations et qui place le livre sur l'étagère de l'autorité. Ça prend du temps, mais une fois installé, c'est super solide.
C'est ancré, quoi.
Voilà. Le système des grilles produits, lui, via le programme Shopping, c'est totalement différent. C'est la bourse.
La bourse.
C'est un ticker, un flux financier en temps réel. Ça ne fonctionne pas par la visite d'un robot, ça fonctionne par une connexion directe, un câble branché entre le catalogue du marchand et l'affichage.
Ah, je vois.
Donc quand Amazon a quitté le programme, ils ont simplement débranché le câble. Peu importe que tu sois la plus grande bibliothèque du monde, si tu coupes le flux boursier, ta ligne disparaît de l'écran instantanément.
Le livre de référence contre le flux boursier en temps réel, c'est brillant comme image. Ça change complètement la perspective.
C'est une autre logique.
Mais alors, si des règles ancestrales, des liens et du contenu ne fonctionnent plus ici, comment on entre dans ce nouveau système boursier? Quels sont les critères de classement?
Déjà, il faut comprendre ce qu'on regarde. L'article cite Brody Clark, qui a identifié quatre types de grilles très distinctes.
Oui, et la distinction n'est pas qu'esthétique, hein.
Non, ça détermine comment l'algorithme va piocher l'information. Premièrement, tu as les Popular Products. C'est le format roi pour les requêtes larges, genre canapé en cuir ou chaussures de course.
Ok.
Ensuite, tu as le Product Viewer. Ça, ça se déclenche quand la recherche est ultra spécifique, comme MacBook Air M3, 256 Go argent. C'est une fiche produit détaillée qui compare directement les marchands pour un objet unique.
Et à côté de ça, l'auteur ajoute les annonces organiques Shopping Ads, ce qu'on appelle souvent les Free Listings. Et enfin, de nouvelles grilles purement visuelles, très inspirées des réseaux sociaux qui s'immiscent même dans Google Images.
Exactement.
Mais il y a un chiffre dans les données de Grosse Mémo qui m'a vraiment sauté aux yeux. Concernant le format principal, les Popular Products, ça favorise à 97% les pages catégories.
C'est énorme.
Seulement 3% pour les pages produits individuels. Pourquoi un tel déséquilibre ?
C'est une question d'intention utilisateur gérée par le flux. Quand quelqu'un tape une requête large, l'algorithme sait que l'internaute veut du choix, de la diversité.
Il ne veut pas qu'un seul t-shirt, il veut voir tous les t-shirts.
Voilà. Il va donc privilégier les marchands capables d'exposer une catégorie riche et bien structurée. Et comment l'algorithme comprend cette structure ?
Par la salle de machine de tout système, le Google Merchant Center.
Le fameux Merchant Center.
Selon Von Gardage, c'est le levier central absolu. Oublie l'optimisation des balises du site web. Ici, la compétition se joue sur la qualité de la base de données brute qu'on envoie à ce Merchant Center.
Et ce flux de données, c'est une affaire de rigueur chirurgicale. Ce n'est pas juste un banal tableur qu'on exporte en croisant les doigts, quoi.
Ah non, sûrement pas.
L'article détaille les exigences techniques pour exister dans ces grilles. Il faut des titres hyper structurés, des descriptions normées et surtout des attributs précis, par exemple la matière, la taille et ce fameux code GTIN.
Oui, ils sont instantanés.
Ah, c'est vital. Le GTIN, c'est le code-barre universel du produit. C'est l'ADN de la marchandise, en fait. C'est ce qui permet à la machine de comprendre avec une certitude mathématique absolue que le téléviseur Samsung vendu sur le site A est rigoureusement identique au téléviseur vendu sur le site B.
D'accord, sans ambiguïté.
Sans ce code précis dans le flux, l'algorithme est aveugle. Il ne peut pas s'intégrer dans la comparaison du product viewer. Et il y a aussi l'exigence photographique. Des images en très haute résolution, impérativement sur fond blanc.
Toujours sur fond blanc, pourquoi ?
Parce que l'algorithme a besoin de détourer l'image à la volée pour l'intégrer proprement dans ses propres grilles visuelles. Une image d'ambiance avec un mauvais éclairage et hop, le produit est rejeté.
L'exemple de la génération automatique via Shopify, que cite l'auteur, ça illustre parfaitement ça.
Ouais.
Si une plateforme génère un titre laconique, du genre T-shirt homme M, c'est perdu d'avance. Ce titre n'a pas la densité de données requise. Il va se faire écraser par un marchand dont le flux envoie un titre millimétré du genre T-shirt coton bio homme, col V noir.
C'est exactement ça.
Mais quand on regarde l'impact commercial, on comprend que le jeu en vaut la chandelle. L'article s'appuie sur Digital Commerce 360 pour montrer que ces listes organiques issues du flux convertissent entre 10 et 25% mieux que les annonces payantes traditionnelles.
C'est pas rien.
Pour certains e-commerçants, ces affichages représentent déjà 20 à 30% de l'acquisition totale. C'est colossal. Cependant, si je me fais l'avocat du diable.
Vas-y.
L'auteur mentionne un changement majeur concernant le prix. Est-ce qu'au final, tout ce système ultra-technologique ne se résume pas à une basique guerre des prix ?
Si on relie ça à la situation globale, l'analyse de Van Gardage ne le cache absolument pas. Le prix est devenu, pour la première fois de manière aussi évidente, un facteur de classement direct en organique.
C'est fou de dire ça en SEO.
Ouais.
Sur une recherche traditionnelle de liens bleus, l'algorithme évalue la pertinence sémantique d'un texte, pas l'étiquette de prix. Mais si on tape « ordinateur portable pas cher », la grille se déclenche et l'algorithme va aller fouiller dans les flux Merchant Center pour classer les offres par agressivité tarifaire.
Donc, si je résume la situation, un acteur totalement inconnu qui a lancé sa boutique il y a 10 jours,
ouais.
Sans le moindre historique, sans aucun lien entrant vers son site, il peut dominer la page de résultats de Google s'il a un fichier de données parfaitement structuré, des photos cliniques sur fond blanc et le prix le plus bas du marché. Et il va passer devant une marque qui publie du contenu expert depuis 15 ans. C'est bien ça, hein ?
C'est l'exacte mécanique décrite dans l'étude, oui. L'agilité du catalogue et la compétitivité tarifaire en temps réel, ça prime sur l'autorité historique.
C'est rude.
Et c'est ce qui génère cette frustration, cette panique presque, chez de nombreux gestionnaires de sites. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont passé les 6 derniers mois à peaufiner la sémantique de leur catégorie, ce basculement brutal peut sembler profondément injuste. Surtout que, comme le souligne l'auteur, cette transition se fait dans un angle mort analytique total.
Cet angle mort des outils de mesure, c'est comme piloter un avion avec la moitié des compteurs cassés, quoi.
L'image est bonne. À ce jour, aucun outil logiciel sur le marché ne croise de manière unifiée la Search Console, qui mesure les textes, et le Merchant Center, qui mesure les grilles. On doit regarder deux écrans séparés, avec des métriques qui ne s'additionnent pas du tout facilement, pour essayer de déduire la réalité du trafic global.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour la stratégie globale ? La conclusion de Sami B dans l'article de Vanguard Edge, elle est très claire. Il faut arrêter de penser la visibilité e-commerce comme un seul et unique champ de bataille. Le paysage est désormais scindé en deux mondes distincts qui répondent à des lois de la physique totalement différentes.
Et il ne s'agit surtout pas d'abandonner l'un pour l'autre.
Bien sûr.
L'approche textuelle classique reste absolument vitale pour capter les recherches d'informations, les questions des internautes, les guides d'achat, ou simplement pour construire la notoriété de la marque sur le temps long.
Oui, l'autorité de la bibliothèque.
Voilà. Mais pour ce qui est de la transaction immédiate, de l'affichage du catalogue visuel, c'est dans le Merchant Center que la guerre se gagne ou se perd.
Ce qui nous amène à la recommandation impérative de cette analyse. L'action concrète à retenir aujourd'hui pour ceux qui cherchent à s'adapter, l'article est formel, il faut changer de posture face à son catalogue.
L'action unique, et je dirais non négociable, c'est de réaliser un audit maniaque de son flux Merchant Center.
Maniaque, carrément.
Ouais. Pendant des années, l'industrie a réalisé des audits techniques SEO extrêmement pointus sur le code des sites web. On regardait chaque ligne de code. Aujourd'hui, Vanguard Edge indique qu'il faut appliquer exactement la même obsession scientifique aux fichiers de données produits.
D'accord.
Il faut traquer chaque attribut de taille manquant, chaque code GTN erroné, la moindre incohérence de quelques centimes entre le prix envoyé dans le flux et le prix affiché sur la page.
Parce que ça pardonne pas.
Non. Car dans la logique impitoyable du shopping graph, chaque attribut manquant n'est pas juste une petite erreur technique. C'est une position dans la grille offerte sur un plateau à la concurrence.
C'est un changement de paradigme qui exige une rigueur opérationnelle vraiment fascinante. Et pour tous ceux qui gèrent des catalogues en ligne, et pour tous les passionnés qui cherchent à comprendre comment la data en temps réel reconfigure nos comportements d'achat, nous invitons très fortement à plonger dans les données brutes de cette étude.
Ça vaut le détour.
Complètement. Les graphiques sur le cas back market et les détails techniques sur les flux sont particulièrement éclairants. Il est possible de lire l'analyse complète de Sami B en visitant l'adresse exacte vanguard-edge-consulting.com blog gris-produit-vs résultats organiques.
Et cette exploration laisse une question fondamentale en suspens, qu'il est super intéressant de méditer. Si aujourd'hui la perfection technique d'un flux de données instantané et un prix artificiellement baissé peuvent court-circuiter en une semaine 15 ans de travail sur la réputation d'une marque,
ouais.
La véritable valeur d'une entreprise e-commerce réside-t-elle encore dans l'autorité de sa marque ou se résume-t-elle purement et simplement à sa capacité d'adaptation instantanée face à un algorithme boursier?
Waouh, c'est une réflexion profondément provocatrice sur l'avenir de la confiance en ligne. Voilà qui clôt notre analyse approfondie. Restez curieux, scrutez vos flux avec la même attention que vos vitrines et à très vite pour une nouvelle exploration.